Bonjour, chers étudiants, et bienvenue à ce 9e podcast à Geneviève dans le cours Intervention, Exclusion et Violence. Aujourd'hui, je suis vraiment gâtée parce que j'ai la chance d'avoir avec moi Cathy Tétrault, qui est la coordonnatrice du programme en éducation spécialisée à la formation continue. Puis j'ai décidé de profiter d'elle un peu, mais pas comme coordonnatrice de ce programme-là, mais comme directrice générale du Centre CyberAide. Donc, merci beaucoup, Cathy, d'être avec nous aujourd'hui.
Bien, merci de l'invitation, ça me fait plaisir.
Ça me fait vraiment plaisir parce que tu as une grande expertise dans un des thèmes de notre cours qui est la cyberintimidation. Fait que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté là, de prendre un petit 10-15 minutes avec toi là, pour en discuter.
Ah bien, je suis vraiment toute oui. Allez-y.
Parfait. Donc, Cathy, premièrement, peux-tu nous mettre la table un petit peu sur la cyberintimidation puis sa venue là, dans le monde de l'Internet? Là?
Bien. Ce que je dis là dans les formations, les ateliers, là, autant aux intervenants et qu'aux élèves, c'est de ne pas oublier que Internet, ça a été inventé par les militaires, par des soldats américains dans les années 1960. Okay? Et c'était une façon de communiquer afin que l'ennemi ne coupe pas la communication. Donc, ça ressemble un peu à une toile d'araignée, c'est pour ça qu'on appelle ça la toile. C'est ce qui fait que tout ce qu'on fait sur Internet reste, est accessible pour tout le monde. Donc, il n'y a aucune confidentialité. On n'est jamais certain à 100% là, d'être protégé, notre anonymat, nos informations, nos photos, puis nos erreurs aussi qu'on peut faire sur le web. Les chicanes, entre autres, hein, l'intimidation, cyberintimidation. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à partir de la toile, c'est de cette façon qu'on peut penser à de l'intervention auprès des personnes qui font de l'intimidation ou qui en reçoivent ou qui sont témoins. Mais la base, c'est vraiment, il n'y a rien d'anonyme, donc tout peut se trouver. Il y a 7 milliards de personnes qui ont accès à ce que vous faites. Vous, ou les jeunes, ou les adultes, ou les personnes âgées. Pour que tout le monde comprenne qu'il y a 7 milliards de personnes qui ont accès à vos données.
Vu de même, ça fait un peu peur.
Donc, quand il y a un conflit, il faut y penser deux fois avant d'aller nommer les choses. C'est ça qui est important. Vite, vite, le civisme. Alors, tout le long qu'on va parler, là, je vais vraiment, il faut penser côté civisme, autant dans le monde réel que dans le monde virtuel. Alors, si on se raccroche à ça, avec l'information qu'on va donner, comment les reconnaître, qu'est-ce qu'ils vivent, comment intervenir, puis quand les référer. C'est comme ça qu'on va y aller.
OK. Ben merci pour cette mise en bouche là qui nous dit OK, moi ça me fait penser à les affaires que j'ai écrites sur Internet. Je me dis oh peut-être que j'imagine que mes étudiants aussi sont en train de se questionner. Donc, avant qu'on parle spécifiquement de cyberintimidation, on pourrait peut-être revenir avec un thème de base qui était capable de différencier le conflit de ce qui est l'intimidation.
Oui, tout à fait. L'intimidation. En général, ça fait partie d'une des formes de violence vécue dans les milieux scolaires. Parce qu'il peut y avoir de la violence sexuelle, la violence matérielle, la violence. Et l'intimidation est une des formes de violence. C'est pour ça que les plans de lutte à l'intimidation sont souvent pour prévenir la violence et l'intimidation à l'école. C'est très important là, de démêler les deux. Donc, l'intimidation, c'est quand il y a un rapport de force qui est inégal. Autrement dit, s'il y a une fille qui dit à l'autre « t'es folle », puis l'autre dit « ben, t'es folle toi aussi », ben là, c'est deux folles, OK? On s'entend, il y a un rapport de force, c'est pas exactement le même.
Mais on est plus sur le même pied d'égalité à ce moment-là.
Oui, c'est ça, les deux, on argumente, les deux, puis après ça, on s'aime plus, on n'est plus amis ou on revient amis, mais le rapport de force est égal. Intimidation, c'est vraiment inégal, c'est-à-dire il y a une personne qui dit à l'autre « t'es folle », l'autre a dit « t'es folle, mais t'es donc bien folle », puis là, il y a des gens qui se rajoutent à ça, puis là, ça devient le rapport de force inégal. Puis, c'est là où, dans les endroits où vous allez intervenir, que ce soit école, pour personnes âgées, même il y en a aussi, là, peu importe la clientèle, allez toujours voir le rapport de force qu'il y a eu là-dedans, puis qui a participé à quoi? Fait que l'intimidation, c'est ça, c'est une forme de violence. Donc, si on transfère avec les écrans et sur le web, cyber-intimidation, ben, c'est sûr que le cyber, ça veut dire utiliser Internet, utiliser les écrans et utiliser des applications. Hein, c'est ça. La cyber comprend là, vraiment qu'il y a trois, ça prend ces trois données-là. Ça prend Internet, ça prend toute forme d'écran, puis ça prend aussi une application là, qui va nous permettre de le faire. Par la suite, la cyber-intimidation, les conséquences sont beaucoup plus rapides. T'sais, ça va très, très vite. Avant, quand on n'avait pas Internet, il y avait de la chicane à l'école, les victimes avaient un temps de répit le soir. Maintenant, avec la cyber-intimidation, les victimes, les témoins, il n'y a pas de temps de répit.
C'est pour ça que... toujours non-stop.
Là. Oui, c'est okay. Ça. Fait que les dommages sont beaucoup plus élevés plus rapidement. Okay. Pourquoi c'est fait, justement? Pourquoi ils prennent ça pour aller régler leurs problèmes au lieu de le faire face à face? Bien, c'est souvent parce que pour l'anonymat, premièrement, ils peuvent s'ouvrir des faux comptes. Hein, on sait comment c'est facile. Aussi, ils n'ont pas à vivre en face à face la réaction de l'autre. Hey, parce qu'il y en a qui réagissent fort aussi. Ouais. Hein? Fait que des fois, ça peut être, ben, j'ai peur de la personne, mais je vais aller dire comment aller en créant un memes ou en créant une fausse nouvelle ou tout simplement en allant l'attaquer directement sur son mur. Puis là, je compte sur mes amis pour liker ça. Puis bon, là, on s'en
fait. Là, ça donne du pouvoir. Là, on est dans l'aspect de
le rapport de force que oui, tu me parlais tantôt. Le rapport de force. Si vous comprenez bien l'intimidation dans le monde réel, transposez tout ça dans le monde virtuel, sauf que les conséquences et les personnes concernées, c'est beaucoup plus. Et là, je vous ramène, mettons, à au poste d'éducateur, éducatrice spécialisée. Quand on intervient avec l'intimidation à l'école, qui a eu lieu dans la cour d'école, ça peut être 3-4 personnes. Mais quand on intervient avec la cyber-intimidation qui a eu lieu le soir dans l'autobus ou la fin de semaine, l'école est tenue, hein, par la loi 56, l'école est tenue quand même d'intervenir, même si ça a lieu ailleurs. Donc là, l'éducatrice, l'éducateur spécialisé vont aller voir toutes les personnes impliquées. Et là, c'est pour ça que ça prend des fois 3 jours pour travailler sur un cas de cyber-intimidation versus 3 heures pour un cas d'intimidation à l'école. Alors, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus de rencontres, de l'implication des parents. Et c'est ça en ce moment qu'on voit un peu partout, c'est que on n'a pas assez d'effectifs pour intervenir. Dans la dernière année, avec la COVID, le taux de cyber-intimidation a augmenté parce que les relations sociales se faisaient uniquement avec le web. Il n'était pas à l'école non plus pour qu'il y ait des gens qui vont pour recadrer les mauvais comportements. Fait que ça, c'est, on a des demandes au centre cyber-aide, des mauvais comportements, des comportements violents, que ce soit au collégial, à l'université, mauvais langage envers l'enseignant, l'enseignante, entre eux, les jeunes, des sous-groupes qui se font pour s'écœurer. Donc, on en a vu des histoires. Alors ça, faut se dire que ça vient avec les écrans, ça vient avec Internet, c'est là pour rester. Il y a une première victime, tu vas sûrement fournir le lien à tes étudiants, il y a eu une première victime de cyber-intimidation, c'est Ghislain Raza, puis je vais vous laisser le soin de découvrir avec la vidéo. La première victime au monde de cyber-intimidation, malheureusement, c'est au Québec, à Trois-Rivières. Okay, non plus quand je le dis, mais vous allez voir que ça part quand même d'assez loin, c'est peut-être 25 ans à peu près. Alors, suite à ça, suite à tout ce qui peut être arrivé sur le web, en 2012 seulement, ça fait pas très longtemps, c'est seulement qu'en 2012 qu'ils ont légiféré ça, puis que là, les organismes, les écoles, etc., sont tenus d'intervenir. Alors, à l'endroit où vous allez travailler, peu importe où, ils sont censés là, vraiment avoir un plan de lutte, puis comment intervenir, puis comment accompagner les gens qui en souffrent ou qui sont auteurs ou victimes.
Donc ça, je vous réfère aussi au podcast là, qu'on a fait avec Joanne Paradis, qui est intervenante au milieu scolaire, qui en parle aussi là, de cette loi-là qui les oblige là, à intervenir. Là, si on parlait d'intervention versus cyber-intimidation, moi... Un premier stress pour l'intervenant, c'est de voir comment c'est gros.
Oui.
Puis de se dire, OK, c'est quoi l'ampleur de cette intimidation-là quand ça arrive dans le, on va dire, dans le concret, là, ouais. Dans la vie, dans la cour d'école, tout ça, c'est assez facile de voir que c'est une petite gang avec un autre, que ça touche, mettons, 10 élèves. Mais là, quand on est dans le monde cyber, on n'a pas idée au départ là, de l'ampleur. Là.
Non, mais puis, oui, ça peut paraître épeurant ce que je dis, mais je vous ramène, OK? Puis souvent, quand j'ai des appels d'école, souvent d'éducateurs et éducatrices, parce que c'est trop gros l'événement, je les ramène. De quelle façon vous auriez intervenu dans le monde réel? Bon, on part de là, OK? Ben là, je serais intervenue premièrement, j'aurais écouté tout le monde. La victime, l'auteur, puis les témoins. Donc, on part de ça. Puis, dites-vous une chose, que ce sont les mêmes victimes, les mêmes auteurs, les mêmes témoins, que ce soit dans le monde réel ou virtuel. T'sais, ceux qui manquent d'habileté sociale ou de gestion des émotions, peu importe quel rôle, ben, vont se retrouver pris là-dedans aussi sur le web. Les conséquences sont amplifiées par contre. Okay, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça qui est important. Mais l'intervention, c'est qu'on va chercher la vision des trois rôles. Le témoin, ça peut être un parent là, qui est témoin puis qui appelle, ou ça peut être vous travaillez dans une équipe, là, dans une maison pour personnes âgées, c'est quelqu'un là, qui, je sais pas, un aide-soignant qui vous rapporte que les gens se parlent sur Facebook entre les personnes âgées, puis là, ça s'écœure. Tu sais, comprenez-vous, ouais. Là? Donc, c'est quelqu'un qui va vous rapporter souvent, ça, quand dans le monde cyber. OK, à moins que vous passiez votre journée à aller voir les Facebook des gens, c'est pas le cas. Puis là, on vous le rapporte. La personne qui vous le rapporte, c'est la première personne qu'on établit. OK, vous avez vu ça où? De quelle façon? Qui vous en a parlé? Est-ce que c'est vous qui l'avez vu? Qui est concerné? Puis là, vous prenez un peu l'historique de ça par rapport à la personne qui appelle. Après ça, on s'arrange pour rencontrer les gens concernés. Mais s'il y en a 200, là, c'est pas ça le but. C'est qui est la victime ou qui sont les victimes? Parce que des fois, ça peut être 2-3 filles ou 2-3 gars contre 30 filles, 30 gars. On ne sait pas, là, hein? Oui. Ou un à un aussi, là, puis après ça, ça monte d'un côté. Alors, allez chercher l'information. Allez chercher le contexte. Allez chercher aussi pourquoi ça a été fait. Allez chercher aussi, bon, mais ces personnes-là, s'ils en vivent sur le web, probablement qu'ils en vivent dans le monde réel aussi. Je vais aller voir un peu auprès de la victime ce qu'elle vit aussi. L'auteur, lui, pourquoi il réagit avec colère? Pourquoi ça lui fait quasiment du bien de faire du mal à quelqu'un? Il est malheureux, l'auteur. Ou il a des connaissances qu'il n'a pas. Fait que lui, ben, sans être dans le répressif, on l'accompagne dans le but de ne plus le refaire. Alors, on développe ses compétences relationnelles.
Parce qu'on se rappelle qu'en classe, on a déjà discuté que autant l'auteur que la victime est une personne qui souffre, puis que les deux ont besoin d'aide, puis que ça, faut pas l'oublier non plus dans cette
dynamique-là.
Dynamique-là, tout
à fait. Et le témoin, maintenant, depuis quelques années, ils se sont aperçus que les témoins vivaient autant, sinon plus de conséquences que la victime. Et voici pourquoi. Le témoin se sent impuissant. Le témoin a peur. Le témoin a peur d'être la prochaine victime s'il dénonce. Et en même temps, il ne peut pas comme quitter. Parce que des fois, ça se fait dans un sous-groupe que personne ne voit. Tu es invité de même dans un sous-groupe. Puis finalement, tu te fais écœurer par le groupe. Ou par une ou deux personnes du groupe, mais tout le monde reste parce qu'il dit « si je quitte le groupe, je vais être la prochaine victime ». OK?
Puis ça, on le voit dans la réalité aussi, oui. De souvent, les victimes vont se ramasser isolées parce que les témoins ne voudront pas trop s'affilier avec elles de peur d'être aussi intimidées. Fait que ça, on voit vraiment que la dynamique, même si on pourrait penser que dans le cybermonde, c'est si différent, bien…
C'est la même chose.
C'est le copier-coller, oui. Là, à un autre niveau.
Juste à une échelle
plus grande. Le moyen est différent, mais c'est un copier-coller.
Oui, il faut penser toujours comme ça pour intervenir, sinon c'est trop gros à penser. Fait qu'on intervient, on part de la même affaire. On part de la même place. Le témoin, lui, va se ranger des fois du côté où il y en a quelques-uns qui vont aller dénoncer et à une personne de confiance, puis ça va se rendre jusqu'à l'endroit où il y a lieu, là. Parce que ça part de quelque part, hein? Ça part de... donc, c'est ça, puis les témoins, entre autres, peuvent avoir les mêmes conséquences que la victime. C'est-à-dire, si vous intervenez auprès d'une personne et vous lui dites « Est-ce que vous êtes victime de cyber-intimidation? » On va dire non. Ben oui, mais c'est parce que là, tu ne veux plus faire ça, tu fais des cauchemars, tu es plus anxieuse, tu veux moins participer au groupe, etc. Tu as des conséquences, mais il y a quelqu'un qui te fait vivre de la violence. Non, la personne, elle est témoin de violence. C'est qu'il faut toujours penser à dire, est-ce que tu es témoin d'une violence vécue par une autre personne? Puis ça, faites le lien avec les enfants qui vivent dans un milieu familial violent. Oui. Les enfants sont marqués par ça. Bien, les témoins de cyber-intimidation sont marqués par ça aussi.
Ça, on va en reparler dans un autre podcast plus tard dans le cours. Bon. Là, on va être rendu à la violence familiale. On va en discuter là, des enfants exposés à la violence
familiale. Voyez-vous, c'est, dans le fond, c'est un grand casse-tête. Tout ça. Quand on parle de violence, la cyber-intimidation, intimidation, mettez ça dans le même casier dans votre tête. C'est juste que les conséquences sont plus grandes. Et pourquoi c'est fait? Pourquoi ça se poursuit? Ben c'est ça. C'est vraiment les auteurs. Pourquoi ils le font souvent, c'est qu'ils disent qu'ils s'amusent. Puis tu sais, on fait comme de trouver juste ça pour te faire plaisir, ça va pas bien. Mais là, tu dis peut-être pas ça comme ça, mais tu sais, tu te rends compte que cette personne-là, il y a de quoi qui va pas non plus. Là. Fait que grosso modo, c'est ça. Tu sais, c'est l'intervention va être de la même façon que dans le monde réel, sauf que faut penser que ça fait peut-être moins longtemps ou ça fait peut-être très longtemps puis qu'il y a personne qui a dénoncé.
Oui, avant de le découvrir, comme intervenant ou comme parent, ça peut être long.
Ça peut être long aussi, puis les gens vont souvent poser la question « Es-tu victime? » Puis la personne va dire non, alors la personne va continuer à aller mal pareil, puis elle est témoin. L'auteur aussi, à un moment donné, il va vivre des répercussions judiciaires. Il va vivre des répercussions aussi d'isolement. Il va se faire tasser, l'auteur de violence. Il va déplaire aussi à son entourage. Si c'est un enfant, il va avoir des répercussions quand même, l'auteur. On pense pas qu'il n'y a pas de répercussions, qu'il n'y a pas de conséquences à ça. Les gens vont quand même s'éloigner de l'auteur, aussitôt qu'ils vont pouvoir le lâcher, là. Parce qu'il fait peur, tu sais. Fait que c'est pour ça, les trois vivent des conséquences. Les trois ont à apprendre quelque chose. La victime, et là, je fais une parenthèse très importante. Maintenant, il y a une victime, puis il y a une victime agressive qu'on appelle. Cette victime-là, agressive, elle est plus difficile à aider. Pourquoi? Parce que la victime agressive peut avoir des comportements qui tombent sur les nerfs. Bon. Là, elle dit, oui, mais je me fais tout le temps écœurer. Oui, mais tu sais, regarde comment il y a des comportements que la victime, on dirait, ben voyons, elle cherche quasiment son trouble, là, mais elle ne le sait pas. Alors, avec la victime agressive, faut aller voir qu'elle n'est pas auteur, puis qu'il y a des comportements qu'elle n'a pas appris, qui fait qu'elle se fait écœurer, elle se fait rejeter. Mais en même temps, tu dis, c'est sûr que ça passe pas.
Elle s'aide pas.
Mais ça, ce sont les personnes les plus difficiles à aider. Et ce sont les personnes qui ont encore plus besoin. Parce que, donc, dites-vous, est-ce que c'est une victime-victime ou une victime agressive? Puis tout le monde va dire, elle est fatigante ou il est fatigant. Ou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que... Alors, ça, c'est plus demandant.
Puis en même temps, l'objectif, c'est toujours que, autant pour l'auteur que pour la victime, qu'elle soit agressive ou victime, qu'éventuellement, on développe les habiletés qui vont faire qu'on ne se retrouvera pas dans la même situation.
Tout à fait.
C'est que l'auteur ne va arrêter de faire de l'intimidation ou de la cyber-intimidation, puis que la victime va aussi développer des comportements, plus d'affirmation de soi, puis de la bonne façon, pour justement mettre un stop rapidement à ces situations-là, puis se dire non, ça fonctionne pas. Fait qu'on, notre objectif d'intervenant est là.
Oui, c'est tout à fait. Puis il faut toujours, peu importe le rôle, dites-vous pourquoi elle le fait. Il y a des raisons à ça. Des fois, vous allez les savoir, d'autres fois, non. Mais il y a des raisons à des comportements. Puis, allez voir aussi pourquoi. Souvent, les auteurs vivent de l'intimidation à la maison par les grands frères, grandes sœurs, ou même de la violence par les parents. C'est le seul modèle qu'ils ont, c'est de communication, c'est par la violence. Donc, eux, pour développer des amitiés, ça va être par la violence. Alors, ça va jusque-là. sais, quand on comprend ça, on est capable de tasser le côté, le comportement négatif pour dire, je vais l'accompagner des apprentissages à chercher des amis, chercher de la, il veut être populaire, hein, ou comment passer son temps aussi, là, sans faire souffrir des gens. C'est ça qu'il faut que je développe en lui, l'empathie. Oui. Tu sais, l'empathie.
Oui.
Le témoin, c'est encore ça. Tu sais, comment on peut s'affirmer, ne pas se poser la violence qu'on voit, c'est en allant dénoncer. Mais on peut dénoncer avec la loi 56 de façon anonyme.
Oui.
Alors, on va dire, je dénonce, mais je ne veux jamais être nommée. Même si l'auteur vient vous voir après et dit, c'est toi qui me dénonçais, on dit non. OK, parce que là, c'est sûr qu'on peut, même si la personne, l'auteur est dénoncé, il n'est pas guéri. Ça se peut que ça se retourne contre nous. C'est vrai que c'est épeurant de dénoncer. Alors, on dénonce dans l'anonymat. On demande à ce que notre nom ne soit pas nommé, puis on le nie. C'est la seule menterie qu'on permet. Puis, tu sais, puis c'est comme ça aussi, encore une fois, auprès de la victime, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Pourquoi elle est plus vulnérable? Oh, ça va souvent, malheureusement, ça part de la maison. Hein? Ça part de l'enfant, mais l'enfant, il est élevé à quelque part. Puis des fois, ben, les parents veulent bien faire, mais manque de connaissances ou d'habileté parentale. Alors, s'il y a une rencontre qui est faite, mettons, c'est avec les enfants, ben, on s'arrange pour que les parents soient au fait. Puis tout le monde, on apprend. Il n'y a rien, il n'y a pas de jugement. Tout le monde en apprend. Si on intervient auprès des adultes, encore une fois, il va avoir l'entourage, le conjoint, la conjointe, peu importe. On fait encore long, on s'assure d'une rencontre pour que le tout se fasse mieux. Puis avec les personnes âgées, bien, on essaie de travailler avec le personnel qui les soigne pour dire cette personne-là a tendance à être plus violente. Cette personne-là a tendance à se faire... S'il y a des gens qui sont plus violents ou qui sont impatients avec elle. Donc, comment on peut travailler ça pour tout le monde? Parce qu'on ne fait pas porter... la réussite d'une action juste à une personne. On le fait porter à tous ceux qui l'entourent.
Donc, voyons, j'allais dire quelque chose que j'ai perdu.
Oh, je suis désolée.
C'est pas grave. Mais, tu sais, je vois vraiment des parallèles à faire avec tout ce qu'on a déjà vu au niveau de l'intimidation. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça vient démystifier un peu l'aspect cyber qui peut nous faire peur en disant, ben là, je connais pas trop ça, je sais pas comment je vais faire pour intervenir, c'est au-delà de l'école, mais la cyber-intimidation, ça rentre dans la violence à l'école qu'on connaît. Et ce que ça m'allume beaucoup, ce que tu as dit, dans tout ce que tu as dit, mais c'est l'aspect des témoins qu'on a tendance, oui, qu'on utilise comme source d'information, mais souvent on a tendance à arrêter là.
Oui,
puis là, c'est ça, là, ce que j'aimerais que les étudiants retiennent, pas juste ça, mais particulièrement, c'est qu'au niveau de leur intervention, bien, ils auront à le faire sur les trois acteurs principaux,
oui,
qui est l'auteur, la victime, le témoin. Et ce que là, je voulais dire, c'est que ce que tu nous dis, c'est de faire de l'éducation.
Tout à fait.
Que ça soit au niveau de l'auteur avec ses parents. Donc là, notre aspect là, éducateur,
toujours,
il est vraiment là, que ça soit avec l'auteur, la victime, le témoin, que ça soit des aînés, que ça soit des adultes ou des enfants. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là d'informer et d'éduquer, parce que plus les gens vont être éduqués, plus ils vont être capables de faire des choix plus adéquats aussi.
Mais, pour terminer, avant de les éduquer, on va voir les besoins faussement comblés par cette action-là. Hein?
Oui, tu nous as parlé de la cueillette d'informations, puis là, après ça, on serait rendu à notre aspect, si on est dans le bout de l'intervention, là, de l'analyse avec à quel besoin ils tentent de répondre.
Exactement.
Pour après ça, en arriver avec l'aspect d'intervention éducative.
Tout à fait. Il y a vraiment, c'est comme dans tous les cas, que ce soit dans le monde réel ou virtuel, peu importe la problématique, il y a eu des partages de photos osées, ou peu importe, mais je ne suis pas sexologue. Non. On va voir encore une fois pourquoi, comment, puis éviter que la personne soit à nouveau victime. L'auteur, des fois, il n'y a pas toujours accès dans ces moments-là. Des fois, vous n'aurez pas toujours accès aussi à l'auteur, mais vous savez une chose, c'est que la victime doit ne plus se retrouver dans ces moments-là, et surtout le témoin aussi. Là. Comme vous avez vu, le témoin est très, très important dans cette dynamique-là. Plus il y a de témoins qui sont aidés, plus il y a de témoins, parce qu'il y a beaucoup plus de témoins que d'auteurs que de victimes.
Oui.
OK? Fait que les dommages sont beaucoup sur les témoins en plus grand nombre. Fait que si les témoins sont aidés, ils vont être capables de dénoncer après, puis ça va diminuer la violence. Voilà.
Merci beaucoup, Cathy. C'est super intéressant. Puis on se reverra peut-être dans d'autres circonstances là, en lien avec le cours, on ne sait jamais.
Oui, merci.